La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'artiste Joséphine Baker, figure éminente de la résistance et de la lutte antiraciste, première femme noire à entrer au Panthéon, où depuis plus d'un siècle, la patrie reconnaissante honore la mémoire des grandes figures de notre histoire.
Ah.
Allez, chantons ensemble maintenant. Chantons ensemble.
Eh bien, bien entendu, vous avez tous reconnu Joséphine Baker, vous avez tous reconnu J'ai deux amours. C'est une chanson qui remonte maintenant à une quinzaine d'années. Et puisque ces jours-ci, justement, Joséphine Baker vient avec Marcel Sauvage de publier ses mémoires, je voudrais qu'ils évoquent pour nous cette époque de 1925.
Ah oui, c'était une époque merveilleuse, tu t'en souviens, José?
Oh, je pense bien.
Enfin, je me souviens de cette chanson, J'ai deux amours. Mais c'est très curieux dans ta carrière, ce qui me frappe, ce qui me semble assez extraordinaire, c'est que tous les 5 ans, tu changes de personnage. Tout à l'heure, tu le disais, tu rappelais ces premières choses où tu dansais comme ça avec une ceinture de banane. 5 ans après, 25, tu étais la grande vedette du Casino de Paris. 5 ans après, tu jouais dans la Créole, tu étais là vraiment dans l'opéra d'une façon extraordinaire. En 40, tu deviens un soldat, car tu as été un très beau soldat. Et ça, vraiment, c'est une chose à souligner. Car Joséphine Baker s'est engagée spontanément dans l'armée, et pendant des années, elle a été absolument magnifique.
Marcel, vous m'avez dit justement maintenant que j'étais un soldat extraordinaire. Ce n'est pas vrai. C'était simplement une seule façon que j'ai eue, moi, de remercier aux Français pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et moi, voyez-vous, si j'étais entrée en France sans jambes, sans bras, j'étais la femme la plus heureuse du monde. Parce qu'il me semble à ce moment-là que j'avais pu donner de moi-même réellement pour la France. Et c'est comme ça qu'il faut l'aimer.
Si Joséphine Baker a deux amours, c'est sans hésiter qu'elle choisit la France dès le début de la Seconde Guerre mondiale, déclenchée par l'entrée des Allemands en Pologne le 1er septembre 1939. Et c'est pendant ce même mois de septembre 1939 que les premiers contacts sont établis entre le commandant Jacques Apté, il est le chef du service du contre-espionnage du 2e bureau de l'état-major français, et Joséphine Baker, la célèbre danseuse de la revue Nègre, dont l'énergie et la sensualité a choqué et fasciné le tout Paris. Elle est muse des cubistes. Joséphine Baker est la première star noire de France. Arrivée en Europe quelques années plus tôt, en paquebot, la jeune Freda Joséphine MacDonald est née à Saint-Louis dans le Missouri, dans une Amérique de la ségrégation, tout juste sortie de l'esclavage. Sur scène, l'artiste d'avant-garde fait très vite sensation. Sa danse sensuelle et sauvage, comme l'indique le programme de la revue Nègre, déclenche les passions. C'est l'événement artistique de l'année 1925, repris d'ailleurs dès l'année suivante aux Folies Bergères. Joséphine se sent enfin libre à Paris. Elle qui reste profondément marquée par la violence de la discrimination raciale aux États-Unis, elle reconnaît le discours de la haine propagé par la propagande nazie et son leader national-socialiste, Hitler.
Ich konnte nur daran glauben, weil ich wusste, dass hinter mir das ganze deutsche Volk stand und bereit war zu jedem Einsatz.
Paris ist in deutscher Hand. Die sofort anschließende Eroberung Verdun's und die Einschließung der Maginot-Linie veranlassten Marschall Pétain zu der Erklärung, dass Frankreich nunmehr die Waffen niederlegen müsse.
Joséphine est une citoyenne française depuis sa naturalisation en 1937. Super reconnaissante, elle est une Marianne noire, consciente de ses libertés, égalité, fraternité, mais aussi de ses devoirs qu'elle accomplit passionnément à la folie, comme tout ce qu'elle aime faire. Dès l'arrivée des premiers exilés belges en France, elle participe à leur accueil. Pendant la drôle de guerre, elle profite des mondanités auxquelles elle est conviée pour recueillir des renseignements pour le contre-espionnage français. Et lors de la défaite, en juin 40, Joséphine refuse de chanter devant les Allemands dans Paris occupé et elle demeure au château des Milandes, en Dordogne.
Joséphine Baker, vous est-il arrivé d'avoir très peur que les Allemands ne découvrent vos activités clandestines au Milan?
Par exemple, quand il y avait des Allemands, je me souviens un jour qu'il était, nous étions à table, il y avait tous les officiers de la résistance, je disais résistance, mais c'était des services spéciaux qui sauvegardaient la sécurité nationale. Et la femme de chambre, Clara, elle s'appelait, elle criait « Madame, des Boches sont là !» au lieu de dire en allemand. Je souffre moi-même quand on dit « négresse ». Alors si on dit « Boche », je comprends ce que ça veut dire, ou un sale juif. Alors, voyez-vous, quand, par exemple, elle est venue dire « Madame, des Boches sont là !» Inutile de vous dire, je suis allée tout de suite vers eux. Parce que le château était, encerné par les chiens de policiers. Et ça a donné le temps à tous les officiers français de se cacher. Et alors, notre résistance a commencé, madame. J'ai commencé à recevoir, aller moi-même en mission, voir l'Angleterre, Portugal, passant par l'Espagne, où il y avait des Allemands de tous les côtés, en France, etc., etc. Je me souviens très bien que ce colonel me disait « Mais pourquoi ne montez-vous pas à Paris ? Vous savez que quand nous sommes tous arrivés à Paris, on a demandé, sachant que vous étiez populaire, que vous restez à Paris. » J'ai répondu « Monsieur le colonel, il y a partout des routes de la France et ailleurs des inscriptions qui se disent « Ni juif, ni noir, ni chien ». A le droit de monter sur Paris. Je suis noire. Et en plus, ce soir, je suis juive, étant donné que j'ai le cœur. Et c'est pour cela la raison que je ne pourrais pas monter. Mais c'est autre chose. L'autre chose, ce n'était pas possible, parce que je n'étais pas à vendre, je ne suis pas encore à vendre, et je ne serai jamais à vendre.
Si Joséphine Baker a choisi la France, c'est aujourd'hui la France qui l'a choisie. Après Simone Veil, Joséphine Baker est la sixième femme à entrer au Panthéon de la République. Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante.
Que vous entendez, vous l'avez reconnue. C'est celle de Joséphine Baker. Elle est près de moi, souriante, très simple, comme vous la connaissiez. Seulement, elle est en uniforme. Uniforme bleu marine, des filles de l'air, un mince galon d'or sur l'épaule. Y a-t-il longtemps que vous portez cet uniforme?
Oh, mais vous savez, je suis engagée depuis le début de la guerre.
Pour Joséphine Baker, il y a une volonté très grande de ne pas être une chanteuse au service des armées, mais une combattante qui chante. Dans son esprit, c'est pas pareil. Et c'est ce qui va notamment après expliquer sa quête de reconnaissance.
Nous sommes au service historique de la Défense. L'historien Gérard Létang présente l'itinéraire militaire de Joséphine Baker à la presse.
D'autre part, ce qui traverse aussi toute sa trajectoire militaire est la tension qui existe entre d'une part sa célébrité, qui est grande, qui est réelle, mais aussi la discrétion, le secret, voire l'illégalité de ses activités durant la guerre. Et donc vous avez en permanence ce paradoxe, cette tension qui traverse ce dossier.
Mais parlez-nous de votre retour en France.
Le temps était gris, il pleuvait, la mer était mauvaise, et je suis restée longtemps rade comme lorsque je suis arrivée pour la première fois. Mais cette fois, j'avais le cœur serré.
Oui, la France se réveille d'un cauchemar. Mais la trouvez-vous changée?
Elle se demande si c'est vrai, si réellement elle est libre. Elle n'exprime rien de tout ce qu'elle a voulu dire pendant ces 4 ans de tristesse. Voilà la France que j'ai retrouvée. Ou plus exactement, que nous avons retrouvée. Car nous sommes nombreux à nous être donné rendez-vous à Londres ou à Alger pour la servir.
En fait, le Joséphine Baker voit l'éclatement de cette guerre comme une sorte de tenaille, de racisme qui se referme sur elle. D'un côté, la ségrégation américaine qu'elle a quittée pour aller en France, et de l'autre, le nazisme auquel elle a été très directement confrontée dans ses tournées en Europe de l'Est. Donc tout à coup, cette espèce de tenaille de racisme qui se referme sur elle. Et cette tenaille va en fait renforcer son patriotisme français. Puisqu'elle vient d'avoir la nationalité française en 1937, j'ajoute que cette nationalité française a permis de transformer son nom de scène, Joséphine Baker, normalement son vrai nom c'est Freda Joséphine MacDonald, en état civil.
Avez-vous chanté de nouvelles chansons ?
Beaucoup. Mais pour les soldats et leurs représentations de bienfaisance.
Comment réagissait votre public ?
Les chansons font toujours rêver. Mais surtout lorsqu'on était question de Paris ou de la France, il était le plus ému.
Oui, vous étiez unis dans une même pensée.
C'est que nous suivions ce grand homme de tête, de taille et de cœur.
Le général de Gaulle ?
Oui.
Je sens que vous voulez me parler du général de Gaulle.
Du monde entier, des hommes de toutes les couleurs sont venus vers lui. Il est un immense temps d'air. On court aveuglement vers lui. C'est plus fort que soi. Il sait ce qu'il veut, il le veut bien pour relever la France. À sa suite, on est fiers d'être français.
En juin 40, la défaite arrive. Et on peut voir dans une interview alors très postérieure en 1975 que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut National de l'Audiovisuel, elle parle de la défaite de juin 40, je cite, comme un petit moment de malheur. Ce n'est pas une volonté de Joséphine Baker de la nier, ce n'est pas qu'elle ne la comprend pas. C'est en fait une sorte de refus de sidération face au désastre. Et ce refus de la sidération face au désastre, le fait de vouloir croire en la France même si elle est défaite, on retrouve ce même refus, ce même ressort chez d'autres étrangers engagés dans la résistance française. C'est ce refus de la défaite qui va nous permettre de passer donc à cette deuxième période de la vie de Joséphine Baker, qui elle est toujours marquée par le service et l'engagement, mais qui elle est surtout marquée par l'illégalité. L'illégalité, c'est celle que subit une partie de l'entourage de Joséphine Baker. Vous voyez que son mari, Jean Lion, va être privé de ses droits par la législation antisémite de Vichy. L'illégalité, c'est celle aussi qui est choisie par le commandant Jacques Apté, qui, alors qu'il aurait dû se démobiliser, continue ses activités dans la clandestinité. Et c'est le choix que va faire Joséphine Baker de continuer ses activités de renseignement au service des Alliés en lui servant de couverture.
Dites-nous, Joséphine, puisqu'on te revoit, charmante et divine. Dites-nous, Joséphine, quel est ce témoin qu'en toi je divine. Quelle joie pour moi de revenir et de retrouver mes
Alors que le maréchal Pétain signe l'armistice avec les Allemands, Joséphine Baker a 34 ans et elle a déjà choisi son camp, celui de la France libre. Artiste, patriote, elle a chanté sur la ligne Maginot, elle a fait des spectacles à l'arrière pour renforcer le moral des troupes, comme beaucoup d'artistes. Mais surtout, Joséphine a choisi dès le début du conflit de rentrer en contact avec le contre-espionnage français en la personne du commandant Jacques Apté. C'est ainsi que Joséphine Baker mène une double vie, une vie d'artiste de musical au front et à l'arrière et une vie d'agent de renseignement à l'état-major français à la faveur de ses mondanités. Grâce à son statut d'artiste, Joséphine Baker continue de voyager avec sa troupe, elle continue de passer les frontières et elle sert de couverture au commandant Jacques Apté, devenu Jacques Hébert, son impresario.
Dans tous les pays, on aimait l'Henri, mais il n'y a qu'un Paris.
L'activité de renseignement telle qu'elle se fait durant la Seconde Guerre mondiale implique un cloisonnement entre la couverture et l'agent de renseignement, en l'occurrence Jacques Apté. Ce qui fait que Jacques Apté, sans doute, ne parle pas, n'explique pas en détail les renseignements qu'il donne, les activités qu'il mène à Joséphine Baker. Pourquoi ? C'est pour ne pas la mettre en danger. Si l'un ou l'autre se font arrêter, il faut que la couverture puisse continuer. Et d'autre part, si par hasard Joséphine Baker est inquiétée, il ne faut pas qu'elle puisse révéler, dans des interrogatoires, voire dans de la torture, ce qui se fait dans son entourage. Joséphine Baker, malgré tout, si elle ne connaît pas la nature exacte des renseignements qu'elle permet de transmettre, elle a néanmoins conscience des risques qu'elle prend. Cette prise de risque va avoir évidemment des conséquences sur sa santé qui implique une longue convalescence qu'elle va faire en Afrique du Nord, justement en raison des risques qu'elle a pris. Alors là, il ne s'agit plus de se renseigner sur les nazis, sur ce qui se passe en France, vu que les alliés britanniques et américains ne révélaient pas tous les renseignements au général de Gaulle puisqu'ils s'en méfiaient. Le général de Gaulle a besoin d'avoir d'autres sources d'informations. Le fait qu'elle soit américaine, mais que les services américains s'en méfient, est pour le général de Gaulle un signe de liberté, un signe de patriotisme aussi, et de loyauté vis-à-vis de lui. Je me permets de signaler que ce lien avec le général de Gaulle va rester longtemps. Alors, ce n'est pas ici que vous enverrez les archives, c'est aux archives nationales, puisque durant sa présidence, sachez que tous les 18 juin, Joséphine Baker écrivait au général de Gaulle qui lui répondait, et les lettres sont toujours conservées là-bas.
Ouais. Shellamas, one is show. Let me dig, dig, dig. That's all I jive some more. Boy, oh boy. The jim, jam, jump is a jumping jive. Makes you get your kicks on the mellow side. Hip, 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 hip. The jim, jam, jump is a solid jive. Makes you 9 foot tall when you're 4 foot five. Hip, 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 hip.
Eh bien, moi, j'ai aussi des souvenirs personnels avec vous. Je me souviens d'un temps où vous étiez fort bien vivante, et même comme moi, sous l'uniforme kaki.
Joséphine Baker, au micro de Claudine Chaunet à la RTF en 1963, avec laquelle elle partage ses mémoires de guerre.
Moi, correspondant de guerre et vous, lieutenant de l'air, et nous attendions ensemble dans la caserne d'Ecmul, vous vous souvenez, le débarquement en France, ou l'embarquement pour la France.
Est-ce que vous vous souvenez un soir, quand les jeunes filles étaient un petit peu impatientes de partir, enfin plusieurs fois, qu'elles avaient eu une fausse alerte. Et alors je me suis amusée en disant, écoutez, moi je sais tirer les cartes. Vous ne vous souvenez pas
si,
de ça?
Si, très bien.
Alors partez, on se mettait tous par terre, puis on tirait les cartes, n'importe quoi qui passait à ma tête, et par ma tête, et je le disais aux mêmes des choses que j'avais entendu dire les unes et les autres la journée, ils étaient convaincus que c'était vrai.
Et je me souviens aussi d'un jour où nous avions quartier libre, puisqu'on attendait l'embarquement et qu'on n'avait rien à faire, et où nous sommes allés, une bande dont vous étiez sur le port, et des soldats qui étaient en train d'embarquer vous ont reconnu et vous ont demandé de chanter, vous souvenez-vous, et très gentiment, naturellement, vous étiez prête à chanter « J'ai deux amours », autant qu'ils me souviennent, mon pays est Paris, c'est toujours ce qu'on vous demandait. Et un vilain officier, vous souvenez-vous, est arrivé, vous ne vous rappelez pas, un officier français qui a dit qu'est-ce que c'est.
Vilain officier français.
Oui, mais à fond.
Ça m'étonne.
Eh bien, pourtant, puisqu'il a, sous prétexte d'ordre et de désordre, et que nous étions sous l'uniforme, il a dit on ne chante pas ici, etc. On a voulu le dire, mais c'est Joséphine Baker, enfin, il n'a rien voulu savoir, et les soldats étaient furieux.
Ah, ça, je me souviens. Ah,
je me souviens très bien de cette triste épisode.
Ah, vous avez une bonne mémoire, vous.
Elle est, en effet, une icône d'une scène artistique qui ne s'est pas compromise à l'évêque l'occupant.
Géraud Letton, historien, chercheur au service historique de la Défense.
Elle est aussi, et c'est important, une figure connue dans ces nouveaux chefs, dans ces nouvelles élites qui surgissent soit de la Résistance, soit de la France libre. Ces gens ne sont pas connus en France occupée. Donc avoir une figure connue, c'est aussi quelque chose d'important. Il y a aussi une importance pour l'armée de l'air, puisque l'armée de l'air a besoin d'avoir une icône aussi célèbre que Joséphine Baker pour montrer qu'elle s'est régénérée. En effet, il y avait dans la France de cette époque une certaine méfiance vis-à-vis de l'armée de l'air, puisque à la fois une partie de la responsabilité de la défaite de 40 pesait dans certains secteurs de l'opinion sur l'armée de l'air. Et je rappelle qu'au moment où Joséphine Baker arrive en France, il y a des bombardements menés par les alliés. Il est donc très important pour l'armée de l'air de montrer, voilà, nous sommes une armée qui s'est régénérée et qui a en son sein des figures morales.
donc le dossier de renseignement sur Joséphine Baker, donc qui commence avec sa demande de visa établie à Alger et signaler sa nationalité, à la fois sa nationalité d'origine américaine et ensuite, une fois naturalisée en 37, française. La signature de Baker et donc ses empreintes digitales derrière.
Au service historique de la Défense, trois dossiers d'archives sont présentés par Marion Souté, conservatrice du patrimoine et responsable des fonds contemporains. Ces documents permettent de retracer le parcours militaire de Joséphine Baker à travers son dossier de renseignement, son dossier de sous-officier de l'armée de l'air et aussi son dossier de décoration.
Mais la partie sans doute donc la plus intéressante, ça va être toute la partie décoration. Et c'est dans cette partie décoration que vous allez avoir les projets de décret, les lettres en faveur de sa nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur et aussi certains éléments explicatifs du pourquoi Joséphine Baker n'a pas la Légion d'honneur dans un premier temps et notamment à titre militaire.
Est-ce que vous pouvez lire un
oui.
extrait ?
Alors je vais vous prendre une lettre en faveur de Joséphine. Ici, une note du général Bousca qui retrace les actions de Joséphine entre 1939 et la fin de la guerre. Par exemple, mademoiselle Joséphine Baker a eu de 1939 à 1944 l'activité suivante. De 39 à 40, est entrée bénévolement en rapport avec les services de CE de l'EMA pour participer à la lutte contre l'espionnage et la propagande ennemie. Après l'occupation du territoire par les forces ennemies, a continué sa collaboration avec les services de la résistance, mission à l'étranger et liaison avec les services alliés. Donc l'aspect de renseignement à l'international va vraiment être également repris par la suite. Elle accomplit donc de 1943 à 1944 des missions importantes et assure des contacts en Égypte malgré une grave maladie contractée en service commandé nécessitant une opération chirurgicale rajoutée à la main. A mis à la disposition des œuvres sociales de l'armée FFL et armée de l'air des sommes évaluées à plus de 10 millions. Une autre lettre du général Billotte. Mademoiselle Baker est à mes yeux une ardente patriote qui, au détriment de sa santé, a mis sans compter son grand talent au service de la propagande française et des œuvres françaises. Elle a de plus, avec une intelligence exceptionnelle, utilisé des relations internationales très nombreuses pour faire parvenir aux organismes qualifiés des renseignements très précieux pour la défense nationale. Donc ici, le dernier document écrit avec trace de Joséphine, donc c'est le journal de marche, aujourd'hui journal de marche et d'opération du groupe de liaison aérienne ministérielle, et qui date donc de 1944. Sur la page du 6 juin est illustrée et décrite l'action à laquelle a participé Joséphine Baker, ou en fait plutôt l'incident. L'accident auquel elle a été confrontée, c'est à savoir donc l'amérissage forcé de son avion au large de la Corse et le fait qu'elle ait été secourue par un détachement de tirailleurs sénégalais.
Vous pouvez le lire ?
Oui. L'équipage sous-lieutenant de Jean Bernard Nos pilotant la gracieuse Joséphine Baker effectue un amérissage forcé au port de Cavary par suite d'une panne de moteur. L'incident leur était arrivé à 80 km de la côte. Le goéland perdant de plus en plus de l'altitude, il fallait bien en arriver là. L'amérissage se passe très bien. Les naufragés réfugiés sur le plan virent arriver à la nage un détachement de Sénégalais au repos dans ce coin. Ceux-ci poussèrent en nageant l'avion jusqu'à la côte et transbordèrent les naufragés à la rive sur leurs larges épaules. Joséphine Baker en tête, faut-il dire qu'il n'avait pas de maillot de bain. Voilà pour l'anecdote.
Chaque instant semble meilleur qu'ailleurs, et pour nous tout est désir, plaisir. Au pays en force le son appel magique, elle se jure devant nos yeux de jeu, et dénoncez-vous toujours l'amour, mais en rythme plein de feu.
Alors le fait qu'elle va être recrutée comme figure morale où elle chante face aux troupes, elle chante face d'abord sur les différents théâtres d'opérations.
Jérôme Létan, historien.
Puis elle va chanter en Allemagne, dans les camps de prisonniers juste avant qu'ils ne reviennent. Le fait de chanter n'est pas une activité facile. Ça implique, là encore, de prendre des risques. Quand il va sur un théâtre d'opération, le risque de faire face à des bombardements, à d'être pris pour cible, c'est traverser des champs de mines sur des champs de bataille qui viennent d'avoir lieu. Donc, chanter n'est pas une activité sans risque.
On dit qu'on est là des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité, on séjourne en chanté.
Voir à la fin de la guerre, dans ces années 44-45, Joséphine Baker devient une figure aussi pour le moral, puisque chanter « J'ai deux amours, mon pays est Paris » face à des déportés qui viennent d'être libérés, face à des prisonniers qui viennent libérer, ça ne prend plus le même sens que dans un cabaret des Folies Bergères dans les années 1930. À toutes ces notions, je voudrais en rajouter une toute dernière, qui est la notion de sacrifice. Dans la guerre, Joséphine Baker va sacrifier son couple. Elle divorce dans l'immédiate après-guerre. Elle va sacrifier sa santé, puisqu'elle ne pourra plus avoir d'enfants, ce qui d'où l'adoption et la tribu arc-en-ciel par la suite. Elle va sacrifier sa fortune, alors c'est assez paradoxal pour quelqu'un qui aura amené beaucoup d'argent aux armées de la libération dans le cadre des levées de fonds. Et quand on lit notamment sur le site de la BNF Gallica les comptes rendus de ces spectacles après la guerre, ce moment où la carrière de Joséphine Baker n'a plus le lustre qui était le sien, certains critiques, très souvent des hommes, peu souvent dans la résistance, disent qu'elle y a sacrifié sa beauté, donc sa carrière. Par conséquent, cette dernière remarque rappelle évidemment cet aspect transgressif et pionnier qui, elle aussi, parcourt non seulement la trajectoire militaire, mais l'ensemble de la vie de Joséphine Baker, puisque c'est pour l'ensemble de son œuvre qu'elle va au Panthéon. Je vous remercie de votre attention.
Vous-même, comment étiez-vous arrivé à Paris?
Ben, je suis venu sur un paquebot. Un jour de septembre, j'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux et je suis arrivé en France avec le soleil de France dans mon cœur.
Et qu'est-ce qui vous avait décidé à quitter l'Amérique du Nord et à traverser l'Atlantique?
Eh bien, monsieur, parce que je savais par mes parents qui sont de la Martinique d'origine, qu'en France, j'aurai la liberté d'esprit et de corps.
Si Joséphine Baker a choisi la France a choisi Joséphine Baker pour son engagement dans la résistance contre le nazisme, mais aussi pour son engagement contre le racisme et l'antisémitisme dont elle a fait preuve tout au long de la guerre. Mais pour Joséphine, le combat continue. Avec la fougue qui est la sienne, elle poursuit ses actions militantes dès la reprise de ses tournées aux États-Unis. Et c'est grâce aux recherches de François Drémeau, historien de la colonisation et spécialiste des relations internationales à l'Université d'Angers, que nous retraçons l'histoire américaine de Joséphine Baker. Vous avez trouvé, François Drémeau, dans les archives diplomatiques de Nantes, un dossier issu du consulat général de France à New York. Et ce dossier éclaire la dernière partie de la vie de l'artiste à partir de 1951, alors qu'elle réalise de nombreux séjours outre-Atlantique. Alors que nous disent ces documents, à la fois sur l'aura internationale de la chanteuse, mais aussi sur ses rapports chaotiques avec son pays natal, les États-Unis, où elle revient donc dès 48 en réalité.
Voilà, en effet, donc dès 1948, elle fait sa première tournée après la Seconde Guerre mondiale. Et dans le cadre de cette tournée, en fait, elle est horrifiée par ce qu'elle voit, c'est-à-dire qu'elle retrouve une Amérique de la ségrégation raciale. Et alors, elle l'a connue, hein, toute sa jeunesse, elle l'a passée à Saint-Louis, dans le Missouri. Elle a connu les horreurs de la ségrégation raciale. Elle a même assisté aux émeutes de East Saint-Louis en 1917. Hein, elle avait 11 ans, donc ça l'a énormément marquée. Mais je pense que la Josephine Baker qui rentre aux États-Unis en 1948, après son engagement dans la France libre, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle considère que le monde a changé. Or, elle rentre dans un pays qui n'a pas changé de ce point de vue-là. La ségrégation est toujours aussi forte, peut-être même un peu plus qu'auparavant. Et donc, elle est choquée par ce qu'elle voit. En plus, elle arrive avec un statut de célébrité et elle se voit refuser une trentaine de réservations d'hôtels dans la ville de New York, qui n'est pas, par ailleurs, l'endroit où la ségrégation s'applique le plus. C'est pour elle un véritable choc, au point d'ailleurs que un de ses premiers réflexes va être de rapatrier une partie de sa famille, la famille qui lui reste de Saint-Louis, vers la France. Hein, donc entre 1948 et 1952, elle rapatrie tout le monde vers l'Emiland qu'elle vient d'acquérir avec Joe Bouillon.
Ce fameux château où d'ailleurs avec son mari, ils adopteront 12 enfants pour créer cette tribu arc-en-ciel qui correspond bien à son idéal universel, sans frontières et contre bien sûr le racisme. Alors ce qui me frappe, François Drémeau, c'est le fonctionnement au fond très instinctif de Josephine Baker, parce qu'elle est engagée contre la discrimination aux États-Unis. Elle est forte bien sûr de son expérience de résistante et en même temps elle fonctionne d'une façon très émotionnelle.
Oui, exactement. En fait, Josephine Baker, elle a un bagage scolaire qui est très limité. Elle n'a pas véritablement une culture politique. En revanche, elle a une intelligence très pragmatique et elle fonctionne souvent à l'instinct. Et ça, c'est quelque chose qu'a beaucoup souligné sa biographe américaine qui s'appelle Jules Rosette Benetta, qui a écrit un très très bel ouvrage qui n'a malheureusement pas été traduit en français, mais qui vraiment montre que on a une Josephine Baker qui s'implique dans des causes viscéralement et les vit complètement. Et elle le fait d'ailleurs souvent de son propre chef, sans concertation avec les associations locales. Parfois, il est vrai aussi avec un certain nombre de contradictions hein, sur les 20-30 ans que l'on peut considérer après la Seconde Guerre mondiale. Mais elle le fait vraiment bien.
Elle est une star du music-hall, Josephine Baker, et une icône du camp des Alliés de la Liberté. Et lorsqu'elle est aux États-Unis, justement, l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, la NAACP, va s'honorer de recevoir la célébrité internationale Josephine Baker. Nous sommes le 20 mai 1951 dans les rues de Harlem à New York.
Ici Pierre Crenès qui vous parle de Harlem. Harlem fête Josephine Baker. L'Association nationale pour le développement des gens de couleur a organisé une journée Josephine Baker pour célébrer le succès de Josephine aux États-Unis, pour célébrer aussi son courage civique et le long combat qu'elle mène pour l'égalité des Noirs. C'est aussi une reine de Paris que fête Harlem. De bonne heure ce matin, Josephine est arrivée à New York par la gare de Harlem. J'aperçois dans le lointain une voiture de police qui s'approche de nous assez rapidement. Et cette voiture de police précède une voiture découverte beige dans laquelle se tient debout Josephine Baker en tailleur gris et coiffée d'un chapeau de paille bleu marine. À ses côtés, son mari Joe Bouillon, arrivé la veille de Paris. Josephine descend de voiture, protégée par la police. Elle monte les quelques marches qui la conduisent à la tribune où elle apparaît maintenant. Et deux petites filles s'avancent. Elles portent une corbeille de fleurs blanches, bleues et rouges qui les dépassent de plusieurs centimètres. Josephine se penche pour embrasser les petites filles et tous les enfants qui avaient pris place près de la tribune se précipitent et Josephine distribue les baisers, prend un petit garçon dans les bras et elle s'approche du micro pour leur parler. Mes enfants, je veux vous dire combien je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes le futur et vous le représentez.
Children,
Je n'ai pas d'enfants, mais vous l'êtes tous, car vous êtes tous dans mon cœur. Je vais embrasser ces deux petites filles sur les joues, comme on le fait à Paris, et en les embrassant, j'embrasse vous tous et je vous montre combien je vous aime. C'est le docteur Ralph Bunche qui va prononcer quelques mots, le docteur Ralph Bunche, médiateur de l'ONU, prix Nobel de la paix. Le docteur Bunche parle quelques mots de français, mais c'est naturellement en anglais qu'il va parler et je vais traduire ces mots en surimpression. Nous nous sommes réunis en votre honneur parce que vous êtes revenu ici au sommet de votre carrière. Vous connaissez le succès depuis longtemps, mais vous avez pris le temps de penser à nous. Vous n'avez pas permis au succès de vous laisser oublier nous, vos frères de race. Joséphine se lève maintenant, serre chaleureusement la main du docteur Bunche, enlève son châle jaune et s'approche du micro.
Merci, merci beaucoup, 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 partout, vous resterez pendant ma vie, si questo cuore ne non stati a morirà. Merci beaucoup, merci beaucoup, signora mia.
Joséphine prend un micro de sonorisation à la main et elle danse maintenant sur la scène.
Extraordinaire archive radiophonique. Merci Lina. François Drémond, nous sommes en 1951 à New York pour ce Baker Day et pour une tournée américaine de Joséphine Baker, néanmoins surveillée par la diplomatie française. Alors pourquoi on surveille notre héroïne de la France libre ?
Oui, alors c'est un très beau document en effet, mais c'est vrai qu'on a là une sorte de paroxysme, tout est beau, tout est rose hein, dans cette archive. Il faut néanmoins replacer le document dans son contexte, le contexte des 18 derniers mois de la vie de Joséphine Baker. Elle a accepté une tournée aux États-Unis en 1950, parce qu'elle a besoin d'argent pour les Milandes, hein, il faut être déjà clair sur ce point. Et quand elle est arrivée, elle s'est quand même rappelé sa désastreuse épopée de 1948. Et donc elle exige au Copa City Club de Miami qui l'accueille que les publics soient mélangés, que ce soit pas des publics que de noirs ou que de blancs qui l'accueilleront pendant la tournée qui lui est préparée. Elle interdit les formes de discrimination jusque sur les portes des toilettes et dans les entrées des clubs. Elle veut que tout ceci soit effacé. Et c'est une grande première aux États-Unis. Une femme noire artiste va faire céder les clubs dans lesquels elle va se produire.
Une grande victoire.
C'est une très très grande victoire et c'est quand même un fait historique aussi dans les États-Unis de cette époque. Et évidemment, cet événement-là va avoir une résonance énorme auprès de tous les mouvements afro-américains qui luttent évidemment pour les droits civiques. Et Joséphine Baker va être galvanisée et comme on le disait, elle fonctionne beaucoup à l'instinct, mais elle fonctionne aussi beaucoup par les encouragements qu'elle trouve sur son passage. Et puis, il y a un autre événement qui se produit au cours de cette année 1951, c'est l'exécution de William McGee, hein, qui est un noir américain condamné à mort pour un viol supposé en 1945. En fait, c'est l'histoire typique d'un procès du sud des États-Unis sous les lois Jim Crow, hein, qui en fait montre la justice expéditive pour les noirs américains. Et Josephine Baker est émue et vraiment touchée par l'exécution imminente de William McGee en avril 1951. Et donc, elle va s'impliquer, elle va financer le voyage de sa femme pour aller voir le condamné une dernière fois, elle va financer les funérailles. Et évidemment, cet événement, il est très présent à l'esprit de tous au moment du Baker Day un mois plus tard. On n'en parle pas. Pendant toute la journée, en hommage à Josephine Baker à Harlem, on ne parle pas de William McGee, on ne parle pas de ces sujets, mais c'est très présent dans l'esprit de tout le monde. Et évidemment, quand on met tout ceci en perspective, eh bien évidemment, les diplomates regardent attentivement ce que cette Française turbulente peut faire aux États-Unis. Parce qu'elle est française, donc elle porte la voix de la France, et c'est une célébrité. Donc on n'est pas encore à cette époque où les artistes d'Hollywood peuvent s'engager dans des causes et en gros changer l'opinion publique, mais on voit que Josephine Baker est précurseur dans ce domaine aussi. Ça, c'est aussi un élément relativement intéressant. Et donc, les diplomates la regardent un petit peu avec inquiétude, hein, parfois. Pour l'anecdote, il y a une dépêche diplomatique du consul général Roger Seydoux à New York qui dit qu'on lui fait part d'un concert de Josephine Baker à Détroit, hein, dans l'Illinois. Et à un moment donné, Josephine Baker arrête son concert et puis se met à discourir à propos de la Révolution française. Elle fait un parallèle entre la Révolution française et les droits des Noirs et la nécessaire émancipation des Noirs américains. Et évidemment, le consul note, il y a deux drapeaux français sur l'estrade. Évidemment, ça, il note avec effroi que pour lui, c'est aussi l'engagement de la parole de la France derrière ça.
Elle prend la France au mot, en quelque sorte, Josephine Baker.
Exactement. En fait, c'est vrai que Josephine Baker, elle a toujours dit dans tous ses discours qu'elle n'a pas quitté les États-Unis pour fuir la misère. Et pourtant, elle a vécu dans une misère absolument abominable, hein. Elle a quitté les États-Unis à cause de la discrimination.
Pas trop fatiguée, Josephine Baker, de cette tournée triomphale aux États-Unis? Vous avez fait à peu près toutes les villes des États-Unis.
Ah oui, tout sauf que beaucoup de villes dans le sud de l'Amérique du Nord.
Mais pourquoi?
Pas parce que question de discrimination. Et je suis au contraire allée à Miami, Floride. Parce que là, nous avons commencé par essayer de donc enlever toutes ces histoires raciales. Et nous l'avons réussi. Pour la première fois, il y a eu des gens de couleur dans les cabarets les plus chics de Miami et dans les hôtels de premier ordre. Et pour la toute première fois dans l'histoire d'Amérique du Nord, les gens de couleur, on a pu rester à Miami Beach après une certaine heure. Parce qu'avant ça, ils ont pu travailler, mais après une certaine heure, il fallait quitter Miami Beach.
Le témoignage impressionnant, on est en 1951, de Josephine Baker qui rentre des États-Unis et qui témoigne de son engagement antiraciste. On sent à quel point elle est désolée et meurtrie par justement ce racisme endémique, hein, de son pays d'origine, les États-Unis. C'est pourquoi il me semblait si important, François Drémeau, de documenter à la fois son parcours de résistante, mais aussi son parcours de militante antiraciste. Quel lien faites-vous entre les deux et comment expliquez-vous que l'itinéraire de Josephine Baker, finalement, soit aussi méconnu encore aujourd'hui?
C'est vrai que Josephine Baker n'a jamais été politisée. C'est-à-dire qu'elle est gaullienne sans être gaulliste. Elle s'implique sans affiliation avec des associations. Elle a souvent fait cavalière seule. Et donc, ça lui a attiré quand même un certain nombre d'ennuis. Je vais parler des diplomates qui la surveillaient, mais c'est vrai qu'au cours de ses tournées en Amérique latine, où elle a beaucoup fréquenté Juan Perón, elle va ensuite dans le Cuba castriste un peu plus tard. Forcément, ce sont des fréquentations qui sont très mal vues par les États-Unis. D'ailleurs,
et c'est facile pour les Américains à ce moment-là de l'accuser de communisme.
Mais bien sûr, et puis on est en pleine guerre froide et clairement les diplomates qui fréquentent régulièrement Josephine Baker, elle s'adresse à eux, elle les voit à chaque passage à New York, disent qu'elle n'a pas conscience de la portée politique, avec un P majuscule peut-être, de ses actes. Et c'est peut-être ce qui est vu comme une faiblesse de la part du diplomate, fait probablement la force de Josephine Baker. C'est-à-dire qu'elle avance, Et le but, c'est vraiment de lutter contre la discrimination raciale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Roger Seydoux, ce fameux consul à New York, dit à un moment donné, notamment à la fin du Baker Day, quand on voit bien que les activistes de l'association essayent de la pousser à s'engager davantage, eh bien il dit « il semble qu'elle ne voit pas l'épée qu'on lui tend ». C'est-à-dire qu'elle part sur un autre combat, à sa manière, mais elle ne continue pas à militer avec eux. Ce qui, d'ailleurs, va lui valoir un peu plus tard, il y a ce qu'on appelle le scandale du Stork Club, elle va s'éloigner de cette association parce qu'elle estime ne pas être assez soutenue au moment où elle aura des problèmes, encore une fois, de discrimination. Et ses séjours castristes aussi vont lui valoir des ennuis avec des membres du Congrès américain, notamment Adam Clayton Power, qui va la qualifier de Jeanne d'Arc de pacotille. Donc on voit, c'est pas un parcours tout rose et absolument exemplaire contre les discriminations. Elle y va à sa façon, elle a fait bouger les lignes, clairement, mais c'est sans sa filiation. Et c'est peut-être pour ça, pour revenir à votre question, c'est peut-être pour cette raison qu'elle a été invisibilisée parce qu'elle n'a pas été récupérée politiquement. Personne n'a pu dire « Joséphine Baker m'appartient ». Parce que Joséphine Baker n'appartient à personne. Elle appartient à tout le monde, et c'est ça aussi son idée du multiculturalisme.
Alors son entrée au Panthéon est-elle la fin de son invisibilité, François Drémeau ? Est-ce qu'enfin les historiens vont s'intéresser à Joséphine Baker ? Parce que c'est extrêmement difficile de retracer son parcours avec précision encore aujourd'hui.
Alors dans les milieux académiques, on s'intéresse et on s'intéressait déjà à Joséphine Baker. Ce qui est bien avec cette panthéonisation, c'est que le grand public peut enfin avoir accès à ces informations et sortir de cette image qui est fort intéressante par ailleurs et qui peut être porteuse d'informations de la Joséphine Baker des années 20 avec sa jupe de banane, mais de montrer aussi la résistante dans la France libre et également celle qui était aux côtés de Martin Luther King en 1963 pendant la marche sur Washington. C'est vraiment, je pense, un très très bel exemple à donner à une nation que celui d'un parcours aussi riche, aussi varié, qui est fait aussi de contradictions, qui est fait de heurts et de malheurs, mais qui est un très très beau parcours.
Profondément humain. Merci François Drémeau. On se quitte avec cette dernière archive sonore. Joséphine Baker en uniforme français, avec sa Légion d'honneur militaire, s'il vous plaît, en 1963 à Washington, aux côtés du pasteur Martin Luther King et de toutes les grandes voix de la lutte pour les droits civiques.
Pensez-vous, Joséphine Baker, que cette manifestation aura des résultats immédiats et positifs?
C'est une chose faite, ça. Maintenant, c'est le temps qui va faire le reste. Mais j'en suis sûre, quand on voit ça ici aujourd'hui, c'est fait.
Joséphine Baker au Panthéon, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde au son des archives de l'INA et de RFI, signé Valérie Nivelon, réalisé par Sophie Janin, avec Dauphine Moreau. Plus d'informations sur notre page RFI.fr, vous retrouverez l'article de François Drémeau, publié sur le site The Conversation. Réagissez sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Et bien maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous embrasser très fort.